Vous écoutez, on lit pour vous.
Les droits des femmes ont reculé en 2024 dans un pays sur quatre, selon l'ONU. Un texte de l'agence France-Presse paru le 6 mars 2025 dans Le Devoir. Les droits des femmes ont reculé en 2024 dans un pays sur quatre, selon un rapport publié jeudi par l'ONU Femmes, qui pointe l'affaiblissement des institutions démocratiques, les nouvelles technologies et le changement climatique parmi les facteurs de menace. L'affaiblissement des institutions démocratiques s'est accompagné d'un recul de l'égalité entre les hommes et les femmes, souligne l'Agence des Nations Unies, pour qui des acteurs luttant contre les droits de la personne sapent activement le consensus de longue date sur les droits de la femme. Près d'un pays sur quatre témoigne de régression sur l'égalité de genre qui entrave la mise en œuvre du programme d'action issu de la Grande Conférence mondiale sur les femmes de Pékin en 1995, sur laquelle le rapport fait le point. 30 ans après cette conférence, l'ONU note des progrès mitigés. La représentation féminine dans les parlements a plus que doublé depuis 1995, mais 3/4 des parlementaires sont toujours des hommes. La part globale de femmes bénéficiant d'une protection sociale a augmenté d'un tiers entre 2010 et 2023, mais 2 milliards de femmes et de jeunes filles ne bénéficient toujours d'aucune couverture. Et les écarts en matière d'emploi stagnent depuis des décennies. Environ 63 % des femmes entre 25 et 54 ans exercent un travail rémunéré contre 92 % des hommes. La crise de la COVID-19, les conflits, le changement climatique et les nouvelles technologies sont autant de nouvelles menaces, relève le rapport. Selon les chiffres de l'ONU Femmes, les cas de violences sexuelles liées au conflit ont augmenté de 50 % en 10 ans et 95 % des victimes sont des enfants ou des jeunes filles. Et 612 millions de femmes vivaient en 2023 à moins de 50 km d'au moins un conflit armé, une hausse de 54 % depuis 2010. Au niveau mondial, la violence contre les femmes et les jeunes filles se maintient à des taux alarmants. 736 millions de femmes, soit une sur trois, ont été victimes une fois dans leur vie de violences physiques ou sexuelles de la part d'un conjoint ou de violences sexuelles de la part d'un autre agresseur, note l'ONU. Dans 12 pays d'Europe et d'Asie centrale, 53 % des femmes ont subi au moins une forme de violence sexiste en ligne. Le rapport fixe une feuille de route en plusieurs axes pour l'avenir. Un accès équitable aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, des investissements pour lutter contre la pauvreté, la lutte contre les violences, une meilleure participation aux affaires publiques et des mesures de justice climatique. C'était « Les droits des femmes ont reculé en 2024 dans un pays sur quatre, selon l'ONU », un texte de l'agence France-Presse paru le 6 mars 2025 dans Le Devoir.
Du financement pour un projet qui met la jeunesse au premier plan pour plus d'inclusivité et d'engagement civique. Un texte de Caroline Lavigne, paru le 20 février 2025 dans le magazine Fugue. Ensemble, pour le respect de la diversité, lançait fin janvier un ambitieux projet financé, en grande partie, par le gouvernement du Canada par le biais du programme Service Jeunesse Canada, avec un financement record de près de 741 666 $. Le projet Comité Empreinte, pour une jeunesse engagée et engageante, vise à mobiliser près de 500 jeunes bénévoles âgés de 12 à 30 ans, notamment issus de groupes sous-représentés à travers des opportunités de bénévolat concrètes et significatives dans leur communauté et milieu scolaire. Il se déroulera jusqu'au 31 mars 2027. Soulignant l'importance de cette initiative, Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada et député de Laurier-Sainte-Marie où est situé le village, s'est senti interpellé par la cause et a exprimé son désir d'appuyer le projet, affirmant qu'il s'agit d'une opportunité essentielle pour mobiliser les jeunes autour des enjeux d'inclusion et d'engagement social. En plus des 741 666 $ octroyés par le programme Service Jeunesse Canada, des entreprises, inspirées par la mission d'ensemble pour le respect de la diversité, ont contribué avec des dons d'environ 70 000 $ supplémentaires. Avec un total de 810 000 $ pour cette initiative propulsée par l'organisme, ce financement témoigne d'un engagement collectif à faire du projet Comité Empreinte un moteur de changement et d'inclusion pour les jeunes et leur communauté. Ce financement permettra à Ensemble d'élargir son rayonnement pour répondre à un besoin urgent, sensibiliser les jeunes aux enjeux de discrimination et les outiller pour devenir des acteurs de changement. Dans un contexte difficile pour les organismes communautaires, il représente une bouffée d'air frais et une occasion unique d'intensifier son impact dans les écoles et milieux communautaires, à Québec et ailleurs. Un projet transformateur porté par la jeunesse. D'ici le 31 mars 2027, ce projet novateur mettra la jeunesse au premier plan pour bâtir un Canada plus inclusif et encourager l'engagement civique et démocratique. Ce sont plus de 120 projets communautaires, touchant et sensibilisant directement au moins 10 000 personnes en milieu scolaire, qui seront réalisés, en plus de l'organisation de deux camps de formation annuels où tous les jeunes se réuniront pour renforcer la cohésion et l'entraide auprès des participants. Ceux-ci seront appelés à identifier les formes de discrimination présentes dans leur milieu et à concevoir des solutions concrètes, tout en développant des compétences clés en gestion de projets, justice sociale, leadership et communication. Ces projets aborderont des thématiques essentielles et actuelles telles que la diversité corporelle, la santé mentale, l'inclusion ethno-culturelle, les handicaps, la diversité sexuelle et de genre, ainsi que la lutte contre le racisme et le sexisme. Ce programme offrira aux jeunes une plateforme pour s'exprimer, agir et contribuer au changement dans leur communauté. Concrètement, le projet des comités Empreinte est un programme d'accompagnement de comités d'élèves du secondaire visant à promouvoir le respect de la diversité et lutter contre toute forme d'intimidation et de discrimination, le racisme, le sexisme, le capacitisme, l'homophobie et la transphobie, entre autres, afin de créer un milieu plus égalitaire et inclusif. Guidé par une chargée de comité d'ensemble, les comités d'élèves identifient une problématique dans leur école, élaborent un plan d'action et mettent sur pied, tout au long de l'année, des activités de sensibilisation et de mobilisation pour une transformation positive de leur milieu scolaire. Les jeunes des comités Empreinte servent ainsi de levier en informant et en outillant les élèves de leur école, ainsi qu'en agissant concrètement pour promouvoir le respect de la diversité sous toutes ses formes. Un impact régional et national. Un nouveau point de service d'ensemble pour le respect de la diversité ouvrira à Québec pour répondre à la forte demande des écoles de la région, dont plus de 40 sont actuellement sur liste d'attente pour bénéficier des ateliers de sensibilisation. Notre gouvernement est fier de démontrer une fois de plus son engagement pour les jeunes, en créant davantage d'occasions d'avoir une incidence réelle et positive dans leur communauté, mentionne Stephen Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Le projet Comité Empreinte que nous finançons offrira à des centaines de jeunes du Québec, incluant ceux issus de communautés autochtones, des expériences de bénévolat enrichissantes pour les mobiliser et les sensibiliser aux enjeux du vivre ensemble, de la diversité et de la lutte contre la discrimination dans leur milieu. Grâce à son travail de sensibilisation et d'éducation, Ensemble pour le respect de la diversité, qui porte le projet, nous aide à bâtir un Canada plus inclusif et sécuritaire. De plus, ce soutien financier rend possible la création de 6 nouveaux postes essentiels pour encadrer et coordonner les comités dans des zones stratégiques, incluant Québec, Montréal et Manawan, renforçant ainsi l'impact de l'organisme dans toutes les régions du Québec. C'était du financement pour un projet qui met la jeunesse au premier plan pour plus d'inclusivité et d'engagement civique. Un texte de Caroline Lavigne paru le 20 février 2025 dans le magazine Fugue.
Tant qu'il y a du fleuve, une chronique de Dominique Lemieux parue le 10 février 2025 dans Les Libraires. J'entame l'écriture de cette chronique à l'aréna de Disraeli, où je viens de déposer mon fils, qui s'apprête à y jouer, victoire espérée pour mettre un baume sur une saison difficile. Il fallait passer par Thetford Mines pour nous y rendre, et l'idée avait aussitôt germé. Nous sommes partis plus tôt, j'ai mis l'itinéraire à mon téléphone et j'ai planifié un crochet vers le quartier Mitchell, territoire d'enfance des personnages d'Amiante, livre tant aimé, signé Sébastien Dulude. Je ne sais trop pourquoi ce détour. Peut-être cette envie de prolonger le souvenir du roman. Peut-être le souhait de comparer l'image que je m'étais construite en tête à la réalité. Mon fils s'est endormi dans la voiture et je suis allée traverser les rues fréquentées par le jeune Steve Dubois. J'ai toujours aimé marcher sur les traces de livres qui m'ont plu et qui illuminent leur coin du monde. Le Knowlton de Louise Penney, le Vieux Québec de Jacques Poulain, la Gaspésie de Roxane Bouchard, le Rosemont de Maxime Raymond Bock. Le Québec est peuplé de fantômes de papier. Petite île. Au début des années 2000, j'ai commencé à fréquenter celle qui partage toujours ma vie, un amour de fin d'adolescence, un avenir à construire et l'envie de partager avec elle l'émerveillement des horizons qui s'ouvrent. Elle vivait sur une île, petit morceau de terre couché au milieu du fleuve, le traversier pour se rejoindre. J'y ai passé une partie de certains étés. Je l'aidais au casse-croûte de la mairesse. On passait des soirées entières au bout de la table à l'auberge de sa grand-mère que j'aimais tant et qui me servait toujours un thé et un morceau de son fameux gâteau à la salade de fruits. Nous avons marché ou roulé chaque centimètre de cette île. La pointe, l'ancien manoir, la route cabossée qui rejoignait l'île voisine, la haute et la basse ville, les soirées sur le tarmac de l'aéroport ou sur la plage de sable, pas fin. L'île aux grues, même si nous n'y allons plus très souvent, demeure un lieu gorgé de souvenirs heureux. Peu d'endroits font naître automatiquement ce sentiment de quiétude et d'enchantement. Plusieurs écrivaines et écrivains y ont campé leur histoire. Julie Stanton, Jean O'Neill, Martine Latulippe, Lise Tremblay et son inoubliable La Héronnière. Récemment, Mireille Gagné y a mené son Lièvre d'Amérique et Luc Martel, son Étranger de l'île aux grues. Chaque fois, je suis curieux d'observer le regard qu'elles et ils y jettent. L'intérêt s'est réveillé de nouveau lorsque j'ai vu apparaître sur les rayons le premier roman de Gabriel Joanne, Où les bateaux ne viennent qu'à la pleine lune, dont l'action se passe en grande partie sur l'île aux grues. L'autrice de Québec, que je découvre avec bonheur, un premier roman aussi réussi mérite 1000 éloges, tisse ici un texte audacieux, plein de magie et d'inventivité. Une insulaire, Adélaïde, accueille, une après l'autre, les 5 filles de son neveu, toutes nées de mères différentes, toutes affublées d'un nom marin, Atlantique, Méditerranée, Baïkal, Yamaska et Carnali. C'est l'histoire, pendant une vingtaine d'années, de ce clan tissé serré qui grandit sur l'île, territoire de tous les possibles, lieu de rêve et de liberté, espace ouvert à toutes les audaces grâce à la force indomptable d'Adélaïde, mystère et sagesse, femme qui évite les voies empruntées. La voilà qui insuffle magie et poésie, le respect de tout ce que l'enfance peut faire éclore. Elle fait fleurir toute l'originalité de ses filles, une jeunesse sans règles, la soif d'apprendre par soi-même, par imitation, par transmission, par émulation, sans obligation ni contrainte. C'est des espaces vraiment libres que naissent les envies de se bâtir une hutte, écrit Joanne. Elles grandiront, les cinq sœurs, avec les parfois difficiles apprentissages de la vie, avec les questionnements inévitables, avec le choc de ces personnalités qui se précisent, avec la lucidité qui surgit et qui réveille certaines zones sensibles. Le père revient ponctuellement, certaines mères réapparaissent, ouverture sur l'ailleurs. Au cœur de cette nature à la fois foisonnante et imprévisible, l'ordinaire se transforme en merveilleux. Le clan se protège, s'appuie, s'aime, se complète. Solidarité toute féminine, union des séparés. Une famille, comme une île, justement. La nature qui se déchaîne autour, ose agiter. Et pourtant, la force de savoir, de compter l'une sur l'autre, de cultiver et célébrer ses différences. L'île racontée par Gabrielle Joanne me révèle un espace à redécouvrir, de nouveaux sentiers à fréquenter, comme un univers parallèle dans ce lieu que je connais pourtant bien. Je retournerai bientôt sur cette île, j'espère, habitée par la présence silencieuse de ces femmes inoubliables. Qu'une mère agitée. Comme Gabrielle Joanne, Sophie Lalonde-Roux n'a pas encore 30 ans. Elle a publié cet automne un livre, Écriture intuitive, sans filtre, qui m'a secouée, Poudreuse, le portrait d'une génération désorientée, d'une jeunesse en crise existentielle. Lou Antoine, début vingtaine, jongle entre son mal de vivre, ses idées noires et son besoin irrationnel de se défoncer, toujours plus, pour affronter l'existence. Chassé du foyer familial, il erre dans les rues de Montréal, accepte la main et le cœur tendu de son ami Étienne, étudiant en médecine, puis s'installe dans un et demi miteux, petit boulot dans un dépanneur, mais rien ne peut faire naître la tranquillité d'esprit. L'amour guérit et brûle à la fois, toutes ces drogues le sauvent, seule façon de côtoyer le réel, et l'enfonce, un tourbillon, un vertige et l'impossibilité de s'en sortir. La mort rôde tout près, détruit les derniers équilibres, et la fuite devient inévitable. Lou Antoine quittera la métropole, direction Gaspé. À l'autre bout du chemin, les loups continuent à hurler. Lou Antoine saura-t-il les apprivoiser? Tant qu'il y a du fleuve, il y a de l'espoir, écrit Gabrielle Joanne dans son roman. Sophie Lalonde-Roux prouve peut-être qu'elle dit vrai. C'était « Tant qu'il y a du fleuve », une chronique de Dominique Lemieux, parue le 10 février 2025 dans Les Libraires.
Avez-vous déjà entendu parler de l'angle mort créé par le pilier A de votre voiture? Un texte de Caroline Montpetit, paru le 11 mars 2025 dans Le Devoir. Au Québec, les morts d'usagers de la route sont en baisse, à l'exception de celles de piétons. Parmi les causes des décès ces dernières années, le pilier de pare-brise qui a contribué à près de 20 % de ceux-ci entre 2018 et 2020. Pierre Sen a 74 ans. Il conduit depuis 58 ans. Mais il lui arrive aujourd'hui de sursauter lorsqu'il voit des piétons surgir soudainement dans son champ de vision alors qu'il conduit sa Subaru Forester. Comme la plupart des Québécois de plus de 18 ans, il n'a jamais eu de formation sur l'angle mort créé par les piliers A de sa voiture qui soutiennent le toit. « Je n'ai pas été formé à l'angle mort, dit-il. J'ai beau être attentif dans un environnement routier connu, j'immobilise ma voiture au stop, regarde à gauche, regarde à droite, j'avance, et tout à coup, arrivé de nulle part, un piéton sort de l'angle mort. Pire encore, quand la course de celui-ci coïncide avec le balayage produit par l'avancement de ma voiture, ouf, danger, raconte-t-il. 18% des décès de piétons au Québec. Tous n'ont pas été sauvés grâce à un conducteur aussi attentif. Depuis 2019, les morts des piétons, Roger Michel Proux, Lise Beauregard, Rosa Presta, Margarita Quinteros Luna, Liam Aglat Clemon, Gilbert Nadeau, Algia Cathy, Gabriel Côté, Richie Meyer, Huguette Brisebois et Maria Charalampopoulou ont toutes été associées par les coronaires aux angles morts créés par les piliers A de plus en plus gros des véhicules sur les routes. Dans l'ensemble du Québec, une analyse réalisée par la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC, estimait que le pilier de pare-brise était un facteur contributif dans 18% des cas de décès de piétons entre 2018 et 2020. En 2023, à l'occasion de la mort de Huguette Brisebois, la coroner Laurence Sarrazin ajoutait que 30% des décès de piétons à Montréal étaient associés à la présence de cet angle mort dans le pare-brise du véhicule. Mais la liste des décès continue de s'allonger. Les costauds piliers A sont l'une des choses les plus nuisibles à la vision d'un conducteur pour calculer un virage ou voir un piéton, écrivait déjà en 2019 le coroner Richard Drapeau à l'occasion du décès de Lise Beauregard. Et ce n'est qu'en 2022 que l'enseignement de cet angle mort a été obligatoirement mis au programme des écoles de conduite par la SAAC. Le guide de conduite a notamment été amendé afin de mettre en évidence cette zone d'angle mort. Pour pallier l'obstruction visuelle de ces piliers de plus en plus gros, il faut donc, apprend-on, approcher la tête et balayer du regard à gauche et à droite du pilier. Parce qu'ils sont plus volumineux et plus lourds, les VUS ou véhicules utilitaires sport et les camions légers doivent être dotés de piliers de pare-brise plus robustes et plus larges, donc plus obstruants. Or, les VUS et les camionnettes représentent désormais la moitié du parc automobile et 85% des ventes de nouveaux véhicules, précise Piéton Québec dans sa campagne de sensibilisation aux piliers A menée conjointement avec la SAAC. Pendant ce temps, aucune directive n'a été donnée aux fabricants d'automobiles qui ont, au fil des ans, construit des piliers A de plus en plus gros où sont logés des coussins gonflables ou des éléments de système électronique. Si des compagnies comme General Motors ont récemment obtenu un brevet pour poursuivre des recherches sur un éventuel pilier de toit transparent mais solide, on est très loin de la coupe aux lèvres quant à son développement. L'augmentation de la grosseur des piliers est la conséquence du fait qu'il y a beaucoup de technologie qui s'est ajoutée. On fait passer là du câblage supplémentaire pour les systèmes électroniques, les gainages pour les toits ouvrants, par exemple. Il y a aussi des haut-parleurs qui sont là en essai, dit Guillaume Rivard, chroniqueur automobile pour le guide de l'auto. Ces piliers, ajoute-t-il, donnent de bons résultats lors d'un impact en cas de renversement du véhicule pour empêcher les occupants d'être éjectés en cas de collision ou même de se cogner la tête. Donc, pour avoir une meilleure absorption, les montants doivent être assez gros. En bref, ils protègent les gens qui sont à l'intérieur du véhicule, au détriment des piétons. Les effets pervers des aides à la conduite. En ce moment, l'industrie investit davantage dans les aides à la conduite, comme des caméras supplémentaires de détection, par exemple. Mais ces aides, de l'avis de plusieurs, ont des effets pervers car elles affectent la vigilance du conducteur qui se fie sur elles pour conduire. Ce qui cause le plus de dangers, ce sont les aides à la conduite, estime Karen Ferrazzano, présidente de l'Association des écoles de conduite du Québec. Dans les voitures maintenant, il y a des mécanismes qui vont avertir le conducteur qu'il y a quelque chose dans l'angle mort. Quand on s'habitue à ce mécanisme-là, on peut avoir des surprises. Je ne regarde pas mon angle mort parce que je fais confiance à ma voiture. Mais il peut y avoir des choses que la voiture n'a pas captées. Ça, c'est un grand danger. Je trouve que c'est un plus grand danger que les piliers. Les conducteurs doivent comprendre qu'ils doivent regarder au-delà des piliers pour s'assurer qu'il n'y a rien. Les écoles de conduite sont sensibilisées à la réalité du pilier A, répond la SAAC au devoir. Elles l'abordent lors des sorties pratiques, en complément des modules théoriques. De plus, en réponse à des recommandations du coroner, nous avons ajouté à l'été 2024 deux questions portant sur les piliers de pare-brise dans notre jeu questionnaire. Chez Transport Canada, qui réglemente la sécurité des véhicules, on répond que les exigences fédérales de sécurité des véhicules élaborées et appliquées par Transport Canada sont axées sur le rendement plutôt que sur la conception. Elles établissent un seuil minimum obligatoire d'exigences de sécurité pour tous les véhicules. Pour le reste, le ministère fédéral en est encore à l'étape de la recherche. Transport Canada a mesuré les angles morts sur un certain nombre de véhicules légers, de gros camions de classe 8, d'autobus de transport en commun et d'autobus scolaires en vue d'élaborer des méthodes de mesure. Transport Canada entame aussi un projet de recherche sur les nouvelles techniques de caméras 3D à balayage laser pour mesurer les angles morts des VUS, des voitures et des camionnettes. Les projets de recherche sur les angles morts se concentrent sur la forme et l'emplacement des piliers A. Si ces recherches déterminent qu'il y a un bénéfice net de mettre en œuvre un règlement, Transport Canada n'hésitera pas à entreprendre les démarches nécessaires dans ce sens, nous a-t-on répondu. En attendant, la SAAC mise sur des campagnes de sensibilisation pour alerter les conducteurs chevronnés sur la réduction de leur champ de vision. C'était « Avez-vous déjà entendu parler de l'angle mort créé par le pilier A de votre voiture? » Un texte de Caroline Montpetit, paru le 11 mars 2025 dans Le Devoir.